Nous continuons aujourd'hui notre série « Prier à partir des Écritures par la méditation et la contemplation chrétienne dans la tradition ignatienne ». Cette série est l'adaptation française des entretiens en anglais sur le sujet du père Timothy Gallagher, entretien qu'on peut retrouver sur le site www.discerninghearts.com. Méditation et contemplation, une discussion captivante que nous avons entamée dans le premier épisode de cette série. Et il y a encore tellement de choses à dire pour bien comprendre la différence entre les deux. Pourtant, la différence elle-même est simple, mais de cette simplicité des choses profondes. Quand nous méditons, nous nous concentrons sur la signification des mots de la parole de Dieu. Qu'est-ce que « béni soient les pauvres en esprit » veut dire, par exemple? Et quand nous contemplons les Écritures, nous pénétrons en imagination, nous vivons de l'intérieur en imagination, un événement des Évangiles, la tempête apaisée, disons, et je suis là, moi-même, dans la barque. Je crois que ce qui peut aider à atteindre un autre niveau de compréhension, moins abstrait, de ces deux méthodes, c'est d'en vivre l'expérience à partir d'exemples. Je voudrais vous citer deux phrases d'une des homélies de Saint Jean Chrysostome sur l'Évangile de Matthieu. Saint Jean Chrysostome mérite vraiment d'être connu. Il a été évêque de Constantinople de la fin du IVe siècle jusqu'au début du Ve. Son nom signifie littéralement « bouche d'or » et il a été l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire de notre Église. Il est mort quasiment en martyr. En effet, à cause de ses positions courageuses contre l'empereur à plusieurs occasions, il a été exilé plusieurs fois. Et la dernière fois, à un âge avancé, la marche forcée l'a amené à la mort par épuisement. Son œuvre est une merveille. Tout ce qu'il a écrit vaut absolument la peine d'être lu. Vous allez en avoir un aperçu dans ce court extrait, deux phrases seulement, de son commentaire de la tempête apaisée dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 8. Ce que j'aimerais faire avec vous, c'est analyser le commentaire de Saint Jean Chrysostome sur trois petits mots de ce chapitre de Matthieu. Lui, cependant, dormait. Saint Jean Chrysostome explore ce détail précis. La tempête fait rage, le bateau est inondé, sur le point de chavirer, les disciples sont terrifiés et Jésus est en train de dormir. Saint Jean écrit « Il dort, car s'il avait été éveillé, peut-être que les disciples n'auraient pas eu peur, ou qu'ils n'auraient pas imploré son aide, ou qu'ils ne l'auraient pas cru assez puissant pour dissiper un tel danger. » Trois raisons donc que Saint Jean entrevoit ici. Et il poursuit. Il dort donc pour laisser la crainte saisir leur cœur et ainsi les rendre plus sensibles à ce qui se passe. En lisant ces phrases, il paraît évident que ce que Saint Jean Chrysostome commente ici, c'est ces moments de notre vie où nous traversons des épreuves, où nous avons l'impression que la tempête est sur le point de nous emporter, ces moments où nous crions vers le Seigneur en prière et on dirait que le Seigneur est endormi, qu'il ne répond pas. Nous avons tous traversé des moments semblables. C'est la toile de fond des réflexions de Saint Jean Chrysostome. Nous l'avons dit, il entrevoit trois raisons. Si Jésus n'avait pas été endormi à ce moment-là, il n'aurait pas eu peur. Il n'aurait jamais vécu cette expérience de se sentir sur le point d'être submergé et de hurler vers lui, et bien sûr de voir Jésus calmer la tempête. Et ça commence peut-être à apporter un éclairage nouveau sur mes tempêtes personnelles, les choses dont j'ai peur, les situations qui m'accablent, alors que je médite aujourd'hui cet évangile. En méditant cet évangile, le texte se révèle à moi d'une nouvelle manière, et en suivant les traces de Saint Jean Chrysostome, je commence à comprendre ce que Dieu me dit de ces situations qui me semblent accablantes dans ma propre vie. Ou bien, dit Saint Jean Chrysostome, il ne l'aurait pas imploré s'il n'avait pas été envahi par la peur alors que Jésus dormait. Il ne lui aurait jamais fait cette prière pleine d'angoisse et de panique qui, quand elle est enfin entendue, bouleverse leur vie. Et nous savons tous, quand nous repensons à notre propre vie, qu'il nous est arrivé d'implorer ainsi le Seigneur, peut-être d'une façon qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Le Seigneur répond à ses prières, à son heure et à sa façon. En général, nous le réalisons avec du recul quand nous relisons notre vie. Et nous savons que ces moments-là nous rapprochent d'une façon unique de lui. Donc le Seigneur dort et il nous permet de connaître de tels moments d'angoisse dans notre vie. Et finalement, Saint Jean Chrysostome dit « S'il n'avait pas vécu cette expérience de la tempête alors que Jésus était endormi, il n'aurait pas vraiment cru Jésus assez puissant pour dissiper un tel danger. il n'aurait jamais su qu'il avait le pouvoir de calmer d'un seul mot le vent et les vagues. Si nous n'avions pas nous-mêmes connu ces moments de désespoir dans notre vie, nous n'aurions pas cultivé cette sorte de confiance inébranlable que, au-delà de toutes les tourmentes de la vie, il y a le Seigneur qui a le pouvoir de nous mener sains et saufs. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, chante le psalmiste dans le psaume 22. Saint Jean Chrysostome poursuit. Ils dorment donc pour laisser la crainte saisir leur cœur. Jésus les interpelle à travers cette épreuve de la peur, qui les rend ainsi plus sensibles à ce qui se passe. Ils n'oublieront jamais ces événements, ni ce qu'ils ont appris de Jésus à cette occasion. Maintenant, si on regarde ce que l'on vient de faire dans le contexte des deux méthodes que saint Ignace décrit, réfléchir à la signification des mots de la parole ou s'imaginer la scène de l'intérieur, il est évident qu'il s'agit ici de l'approche méditative de réflexion sur les mots. Méditer, c'est exactement ce que saint Jean Chrysostome fait. Il réfléchit, s'interroge sur le sens de trois mots, juste trois mots dans ce cas. Pourquoi Jésus dort-il ? Qu'accomplit-il dans la vie de ses disciples quand il les amène à passer à travers la tempête alors que lui-même est endormi et qu'il ne répond pas immédiatement à leurs prières ? Je crois que vous serez d'accord avec moi que c'est une merveilleuse réflexion sur la parole de Dieu. Comme on l'a vu la dernière fois, il s'agit d'une passerelle, d'un portail pour pénétrer dans la parole de Dieu. Et ce qui se passe quand saint Jean Chrysostome se penche sur ces mots ou quand nous le faisons nous-mêmes dans notre propre prière, c'est que les mots commencent à parler à notre cœur. Évidemment, cette réflexion porte naturellement sur des mots qui font écho à des expériences de ma propre vie, des mots qui touchent mon cœur. Et cette réflexion me donne une nouvelle assurance, une nouvelle énergie, une nouvelle clarté, une conscience approfondie de la présence du Seigneur dans ma vie. Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, décrit trois étapes dans la méditation, ce processus que nous venons de voir saint Jean Chrysostome appliquer et que nous suivons tous assez spontanément quand nous prions avec la Bible. Saint Ignace dit « Je me remémore la parole » et c'est la première étape. « Je me la remémore peut-être en la relisant, cette parole de Matthieu, lui cependant dormait. Je l'examine avec amour » et c'est la deuxième étape. Comme saint Jean Chrysostome, j'explore la signification du passage. « Pourquoi dors-tu, Jésus, quand tes disciples sont aux prises avec une tempête qui menace leur vie ?» Je l'examine avec amour, et alors que je l'examine, que j'approfondis sa signification, mon cœur s'éveille. Et puis, et c'est la troisième étape, je la saisis cette parole, je l'assimile avec amour et désir. C'est cela le déroulement de la méditation ignatienne. Se remémorer la parole de Dieu, examiner la signification des mots, et ensuite laisser son cœur s'ouvrir d'une nouvelle manière, pour saisir, demander, désirer et remercier pour le don d'une nouvelle compréhension de la signification, de la puissance des mots de cette parole. Évidemment, ces trois étapes, se remémorer, examiner, saisir, sont cycliques. Je me rappelle les mots, je les explore, mon cœur s'ouvre, je reviens aux mots, je réfléchis encore. Ma prière est un processus d'approfondissement progressif. Maintenant, reprenons ce même passage de la tempête en suivant une autre figure du monde de la spiritualité chrétienne, le jésuite anglais Alban Goodyear, qui a été pendant de nombreuses années archevêque de la ville qui s'appelait en ce temps-là Bombay, en Inde. Il a écrit plusieurs livres qui sont de véritables prières sur des épisodes de l'Évangile, selon la méthode de saint Ignace. Dans son livre « La vue publique de notre Seigneur Jésus-Christ », il dit ceci à propos du passage de la tempête dans Matthieu. Jésus se trouvait avec les douze dans la maison sur la rive. L'évêque Goodyear imagine la scène. C'est le soir. Il le voit comme ça parce que les passages précédents de l'évangile de Matthieu nous montrent Jésus au milieu de la foule, accomplissant plusieurs guérisons et instruisant les gens. Donc il imagine la scène. Il écrit « Le jour s'achève, la nuit tombe, la foule se disperse et Jésus est là avec les douze dans la maison sur le rivage. Dans les rues et au bord de l'eau, il reste encore beaucoup de monde qui déambule par petits groupes, discutant des événements de la journée jusque tard dans la nuit. Il continue à décrire la scène comme il la voit. Il voit Jésus, il voit les petits cercles de ceux qui sont restés. Il y a tellement de choses à commenter. Ils ont vu tellement de choses durant la journée que certains ne sont tout simplement pas prêts à partir. Ils ont encore besoin de partager ce qui s'est passé. D'autres se sont installés pour se reposer ici et là, enveloppés de la tête aux pieds dans leur couverture. Arrêtons-nous un instant. Il est déjà évident, je pense, que des deux modes de prière dont nous parlons, la méditation, réflexion sur le sens des mots, et la contemplation, entrer en imagination dans un événement, il est évident que Goodyear utilise ici la contemplation. Son imagination est vivante et il est à l'intérieur de la scène. Il voit Jésus, il voit les petits groupes, il voit la nuit tomber, il voit la rive, la cabane. Et maintenant, il commence à plonger dans les sentiments qui habitent le cœur de Jésus. Il sent que Jésus doit s'éloigner, ne serait-ce que pour la nuit et la matinée. Ce désir profond d'être seul de temps en temps n'est jamais très loin. Il doit se retirer, se donner quelques heures de paix. Il se retourne vers les pêcheurs. Il regarde vers le lac. La lune est levée. Il y a une ride légère sur l'eau. Et là, Goodyear cite les paroles prononcées par Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Passons sur l'autre rive du lac. Puis il reprend. La soirée était de toute évidence tranquille quand le petit bateau est parti. La tempête vient plus tard. Au début, tout est paisible. Alors qu'il quittait le rivage, la lampe à la proue se balançait, sa lueur se reflétant sur l'eau. C'est un petit détail remarquable car il montre à quel point l'évêque Goodyear est engagé en imagination dans la scène. Il voit même une lampe accrochée à l'avant alors que le bateau s'éloigne du rivage. Et il voit la réflexion de sa lumière sur l'eau. Je pense que vous pouvez percevoir que quand quelqu'un est à ce point plongé dans son imaginaire, cette personne accède vraiment au cœur de la parole de Dieu. À travers un portail différent cette fois, le portail de l'imagination, cette merveilleuse faculté que Dieu nous a donnée et qui nous rend capables d'être présents à des phénomènes qui ne se déroulent pas physiquement devant nous, comme nous l'avons dit la dernière fois. Goodyear continue sa description. Derrière eux, pendant qu'ils ramaient, quelques lumières scintillaient, matérialisant le long alignement d'habitations entre Bethsaïde et Capharnaüm, et plus loin encore. Voici encore un détail touchant. Si vous avez déjà pris un bateau de nuit, vous avez eu cette expérience. Alors que le bateau s'éloigne du rivage et que la distance entre vous et la rive augmente, vous vous retournez et vous voyez émerger la côte et ses lumières. Encore une fois, il est évident que l'auteur est profondément plongé dans les Écritures. Et il écoute aussi. Ici et là, des chiens errants aboyaient, l'un répondant à l'autre. Occasionnellement, un coq chantait et un autre lui donnait la réplique. Une particularité des nuits d'Orient. Par ailleurs, tout n'était que silence, un silence encore accentué par ces cris. Les marins se soumettaient au sortilège. Ils vaquaient à leurs tâches sans un mot. S'ils devaient parler, ils chuchotaient. Dès qu'ils se furent éloignés, ils hissèrent la petite voile. L'auteur note tout ce qui se passe. Et on n'entendait plus que le bruissement de l'eau le long de l'embarcation et le craquement du mât alors que la voile obéissait au vent ou à la corde qui la guidait. À l'arrière, Jésus s'allongea sur les planches entre les deux bords. On avait trouvé un coussin rustique pour sa tête et presque immédiatement, il tomba profondément endormi. Donc ici, nous avons une approche différente pour prier à partir du même passage. Et en lisant le texte de l'évêque Goodyear, en observant la fécondité de son imagination, on se rend compte de la puissance de cette approche. Je crois que pour la majorité d'entre nous, l'approche méditative, peut-être sans cette terminologie, nous est familière depuis longtemps, cette réflexion sur la signification des mots de la parole de Dieu. Par contre, il se peut bien que l'approche par l'imagination soit plus nouvelle pour nous. Et c'est formidable de découvrir que, solidement ancrée dans des siècles de notre tradition catholique, existe une autre manière de prier, basée sur la fécondité de notre imagination, comme nous l'avons vu exercée par l'évêque Goodyear. Quand saint Ignace explique ce qu'est la contemplation, il identifie aussi trois étapes pour décrire le processus. Il dit « Je vois les personnages, Jésus, les apôtres dans la barque, j'entends les mots, passons sur l'autre rive, et plus tard quand les apôtres sont terrifiés, « Seigneur, au secours, nous périssons !» Et puis la réponse de Jésus « Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ?» J'entends les mots qui font partie du texte et j'observe les actions. Trois étapes, je vois les personnages, j'entends les mots et j'observe les actions. Et nous faisons cela presque comme si nous regardions un film de la vie de Jésus, disons Jésus de Nazareth ou un autre de ses films sur la vie de Jésus. Et le film joue sur le mur devant nous et nous marchons directement dans le film pour nous retrouver dans l'action. Nous nous mêlons aux gens, nous entendons les sons, nous observons les actions et nous sommes là en personne. Nous sommes là dans la barque avec les disciples. Nous sommes l'un d'eux et nous sentons le vent forcir et les vagues commencer à s'écraser sur la coque, nous sentons les premières bouffées de panique dans notre cœur. Nous voyons aussi la même peur poindre dans le cœur des disciples. Nous nous tournons instinctivement vers Jésus, nous le voyons endormi, nous avons peur de le déranger alors que tout cela vient juste de commencer. Nous entendons le vent prendre de la puissance. Nous sentons le mouvement de balancement du bateau, les vagues se déverser sur le pont. Avec les disciples, notre propre peur est décuplée. Encore une fois, nous nous tournons vers Jésus. Il dort toujours. Notre implication en imagination est totale. Et c'est cela la contemplation. Quand nous voyons les personnages, entendons les mots et observons les actions. Et en faisant cela, la contemplation, au final, nous mène au même endroit que là où la méditation nous mène. Les deux mènent au cœur. Quelque chose dans mon cœur va être touché. Cette expérience que je vis maintenant en imagination, que je partage, je suis là, je participe, cette expérience va révéler des choses dans ma propre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai une réunion de travail qui m'inquiète parce qu'elle va être difficile. Et ce matin, alors que je prie à partir du passage de la tempête et que je suis dans la barque avec eux, je me retrouve en train de crier vers Jésus au milieu de ma propre tempête, grosse et gonflée dans ma propre vie. Et j'entends sa réponse à eux et à moi. « Pourquoi avez-vous peur ? Ayez confiance. » Et j'observe sa toute-puissance naturelle alors qu'il calme d'un mot le vent et la mer. Et quelque chose dans mon cœur se réchauffe, s'ouvre. L'anxiété pour un moment peut-être diminue. Et quelque part au fond de mon cœur, je sais que le Seigneur sera avec moi tout au long de cette journée inquiétante. C'est là que nous disons, à propos de la prière, que c'est un cœur parlant à un cœur. C'est le point culminant de la prière. Regardons maintenant encore un autre exemple. C'est l'exemple de Marc qui écrit à son accompagnateur spirituel, à qui il a donné l'autorisation de partager ce qu'il a écrit. Marc priait à partir des Écritures depuis à peu près un an. C'était donc relativement nouveau pour lui de prier presque tous les jours à partir de la Bible. Et ce jour-là, il priait à partir du chapitre 10 de l'Évangile de Jean, quand Jésus se décrit comme le bon berger. Et Marc écrit ceci. « C'était un moment de prière très beau, un moment d'intimité. Il y avait tellement de richesse dans les mots, le passage était si bien écrit. Je ne lisais pas des mots, le texte était vivant et il me touchait presque directement le cœur. » Et comme on le disait tout à l'heure, c'est là le point culminant de la prière, quand le texte touche le cœur. Marc continue. « J'avais lu ce texte de nombreuses fois, et il ne m'avait pas interpellé. Les mots étaient restés couchés sur le papier. Et pour une certaine raison, cette raison, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre, quand nous nous ouvrons à sa parole, quand nous traversons cette passerelle, ce portail de la contemplation ou de la méditation, ou en termes ignatiens, quand nous nous rendons disponibles, quand nous nous ouvrons à entendre la parole de Dieu, alors Dieu, dans sa divine bienveillance, entre avec nous dans notre démarche et la comble de sa grâce. Cette fois, pour une certaine raison, j'ai eu une profonde conscience du Christ, le bon pasteur, qui dissipe mes peurs et me montre le chemin. Ce moment de prière, dit Marc, était plutôt méditatif et pas vraiment imaginatif. Bien sûr, Marc connaît la distinction entre méditation et contemplation, et il sait que ce qu'il a expérimenté est plus de l'ordre de la méditation. « J'ai laissé ces mots magnifiques nager dans mon cœur dans un mouvement de va-et-vient. » C'est peut-être la meilleure description qu'on puisse donner, presque une définition de la méditation. « J'ai laissé ces mots magnifiques nager dans mon cœur dans un mouvement de va-et-vient. » Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. J'ai laissé ces mots magnifiques nager dans mon cœur dans un mouvement de va-et-vient. Marc continue. La prière m'a laissé heureux spirituellement. En termes ignatiens, Dieu a comblé sa prière de consolation spirituelle. Pendant une journée et demie, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ces mots. Je les ai utilisés dans une formation que je donnais. Marc s'occupe de la catéchèse dans sa paroisse. Je les ai utilisés dans une formation que je donnais et je savais que c'était plus qu'un cours. parce que je parlais du fond du cœur, je parlais d'une expérience. Si nous décidons d'une façon qui soit compatible avec les charges de notre vie actuelle, si nous décidons de passer du temps, je dirais quotidiennement, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ou au moins plusieurs fois par semaine, si ce n'est pas possible chaque jour, si nous décidons de passer du temps en prière avec la parole de Dieu, alors ce que Marc expérimente va aussi se produire dans notre vie. À une autre occasion, Marc donnera sa formation, comme toujours, du mieux possible, mais à cette occasion spéciale, il ne faisait pas juste enseigner. Il parlait, comme il le dit lui-même, avec son cœur. Il parlait de quelque chose qu'il avait vécu dans une communion vivante avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Et c'est ce qui va commencer à arriver dans notre propre vie, si nous aussi, nous nous mettons à prier ainsi. Toute cette discussion dans cette série mène à une seule chose, l'invitation pour chacun de nous à trouver un temps chaque jour, ou au moins le plus souvent possible, quelques minutes, à l'heure qui nous convient, pour prier à partir de la parole de Dieu. Prenons un dernier exemple pour aujourd'hui, qui provient de l'histoire d'une femme, Catherine. Elle avait 21 ans, elle était en bonne santé, intelligente, pleine de vie, et elle est entrée à l'hôpital pour ce qui devait être une simple chirurgie ambulatoire. Tout de suite après l'intervention, elle a fait un accident vasculaire cérébral. Elle est restée largement paralysée pendant longtemps. Elle a subi des pertes de mémoire importantes et elle a vécu une longue rééducation qui s'est accompagnée de nombreuses fluctuations dans ses émotions et de façon tout à fait compréhensible, de haut et de bas dans plusieurs aspects de sa vie dans les 17 années qui ont suivi. Et quand elle fait l'expérience de prière qu'elle raconte ici, elle a maintenant 38 ans, 17 ans après l'accident. En fait, elle a par la suite écrit un livre que beaucoup de gens trouvent vraiment utile. Un livre intitulé « Survivre à la dépression, une approche catholique » de Catherine Hermès. À ce moment particulier de sa vie, elle fait une retraite de style ignatien, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, elle prie plusieurs fois par jour à partir de la Bible. Et elle écrit dans son livre « Immédiatement, dès le début de la retraite, je me suis retrouvée à désirer prier sur la passion, la mort et la résurrection de Jésus dans l'évangile de Jean. » Il y a tout de suite quelque chose d'intéressant à noter ici. Si, quand nous songeons à prier, nous nous sentons attirés, appelés par un passage particulier, un psaume particulier, un paragraphe du Sermon sur la montagne, un extrait d'une lettre de saint Paul, spirituellement, il est bon d'être attentif à ses désirs, ses attirances et de les suivre. Ces textes vers lesquels nous sommes spontanément attirés sont ceux qui souvent vont nous apporter le plus. Si un des textes lus à la messe me parle particulièrement, un passage de ces textes me touche profondément le cœur, c'est probablement le texte avec lequel je devrais prier plus tard dans la journée ou le lendemain matin, ou la prochaine fois que je vais prier. Et c'est ce que fait Catherine. Elle sent un désir fort de prier avec la passion et la résurrection du Christ, et c'est ce qu'elle fait pendant sa retraite. « Je vis Jésus debout devant Ponce Pilate et ses accusateurs. » Ça nous dit tout de suite quelle méthode elle utilise. « Je vis Jésus debout devant Ponce Pilate et ses accusateurs. » Elle utilise la méthode de la contemplation. Elle entre en imagination dans la scène et elle est là. Elle voit Jésus au moment où il se tient devant Ponce Pilate et ceux qui l'accusent. Comment Jésus pouvait-il rester là alors que tout le monde réclamait sa mort? Je me demandais. Comment pouvait-il être si calme? C'est magnifique. C'est un moment sacré pour Catherine. Et c'est ce qui arrive quand nous contemplons en imagination. Ce que nous voyons commence à nous parler profondément de l'intérieur. Comment peut-il rester debout aussi calme quand les gens crient et exigent sa mort? Et il reste là, silencieux. Alors que je me plaçais complètement dans la scène, c'est une belle description de la contemplation, et que je ressentais le calme de Jésus, je commençais à entendre. Donc elle voit et elle entend en imagination. Je commençais à entendre Jésus dire tranquillement à la foule, « Oui, prenez-moi, faites ce que vous voulez de moi, parce que ma mort sera votre salut. » Les mots que Catherine entend Jésus prononcer ne sont pas des mots que nous trouvons littéralement dans l'évangile de Jean, mais ce sont des mots qui reflètent exactement des mots que Jésus dit effectivement dans les Écritures. Comme dans Jean chapitre 10, quand Jésus dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne de moi-même. » Ou en Jean 13, au début du chapitre, « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Catherine sait, quand elle prie, qu'elle a la liberté d'entendre Jésus dire ce que nous savons intimement qu'il a prononcé dans les Écritures, mais dit d'une manière personnelle, qui lui parle à elle. Nous allons continuer à parler de l'expérience de Catherine lors de notre prochaine discussion, mais je voudrais vous suggérer de commencer dès maintenant. C'est comme cela que nous allons apprendre à prier, en commençant à le faire. Et j'ai l'espoir que dans la suite de ces conversations, nous allons pouvoir adresser très concrètement toutes les questions pratiques que vous pourriez avoir. Quel texte devrais-je choisir? Comment commencer ma prière? Que faire si je me laisse distraire? Etc. Nous parlerons de beaucoup de ces questions, mais rien ne peut remplacer la pratique. Commencez vraiment, l'essayez nous-mêmes. Et ce Dieu qui nous dit de demander, nous promet aussi que nous recevrons. À très bientôt. Vous écoutiez Isabelle Rebel, qui avait le plaisir de partager avec vous, qui parlez français, le riche enseignement du Père Timothy Gallagher sur la spiritualité ignatienne. Pour retrouver tous les entretiens originaux en anglais, rendez-vous sur le site www.discerninghearts.com.